Bonsoir. Clôture jeudi dernier à Nairobi du sommet de la CIRGEL sur l'emploi des jeunes. Objectif, favoriser l'emploi des jeunes dans leurs pays respectifs par notamment le poids des crédits financiers et l'assistance aux jeunes inventeurs ou créateurs d'entreprises. Quel le pire faire de ces recommandations? Nous en parlons avec Jean-Modeste Manenga, il est coordonnateur du programme national pour l'emploi des jeunes Croyen en sigle. C'est une structure qui dépend du ministère du Travail. Bonsoir Jean-Modeste Manenga.
Bonsoir monsieur.
Martin Mkonko, le secrétaire général du Front des démocrates congolais pour le développement parti de l'opposition. Bonsoir Martin Mkonko.
Bonsoir messieurs les journalistes.
Et Polydor Tangeli, expert et psychologue du travail. Bonsoir Polydor Tangeli.
Bonsoir, bonsoir Guy Maté.
Plusieurs réactions parmi lesquelles celle de Maître Adrien Idobakwe de Kananga au Kasaï occidental. Je qualifie les recommandations de la CIRGEL d'irréalistes car non seulement on ne nous dit pas les mécanismes de création de ce travail en faveur des jeunes, mais aussi et surtout tous ces pays utilisent les jeunes à des fins politiciennes. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Le sommet de Nairobi sur l'emploi des jeunes s'est clôturé jeudi dernier. Les pays membres ont convenu de favoriser l'emploi des jeunes dans leurs pays respectifs. C'est à travers, entre autres mécanismes, l'octroi de crédits bancaires et l'assistance aux jeunes créateurs d'entreprises. Sifa Maguru pour les détails.
C'est à travers une dizaine de résolutions que les chefs d'État et de gouvernement présents ce jeudi à Nairobi ont défini la politique générale d'octroi d'emploi aux jeunes de la région des Grands Lacs. C'est entre autres développer les programmes nationaux et régionaux dans les secteurs clés de l'économie tels que l'agriculture, l'élevage, l'industrie extractive, etc. Pour le professeur Ntumba Luaba, secrétaire exécutif de la CIRGEL, les jeunes doivent tout d'abord développer l'esprit de créativité et d'entrepreneuriat à leur niveau, qu'ils s'organisent en association pour travailler en synergie. Mais les États doivent à leur tour soutenir ces initiatives en accordant un certain pourcentage du budget au financement des projets des jeunes. Afin d'assurer le suivi des résolutions du sommet, un secrétariat du Forum régional multifonctionnel des jeunes a été mis en place. Il sera établi à Nairobi. Un motif de satisfaction pour la présidente du Forum des jeunes de la RDC, Francine Muyumba, présente à ce sommet. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Le Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu s'est dit optimiste quant à la matérialisation des recommandations du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGEL le 24 juillet dernier à Nairobi. Un sommet essentiellement consacré à la lutte contre le chômage des jeunes. Les chefs d'État et de gouvernement considèrent en effet que la crise de l'emploi des jeunes constitue un fléau capable de déstabiliser même les institutions. Ainsi ont-ils convenu de faciliter l'accès des jeunes entrepreneurs au financement et de mettre en place un fonds régional pour les jeunes entrepreneurs. Guy Kibira, président du Conseil provincial de la jeunesse au Nord Kivu, a pris part à ces assises de Nairobi. Il dit ici son optimisme au micro de Gisèle Cage.
Le ministre Bahati Lukwebo, le ministre de l'Emploi, il a proposé au sommet de prélever un montant sur tous les billets de voyage en provenance ou en destination des pays membres de la région des Grands Lacs. Et c'est là pour financer les initiatives des jeunes. Donc les jeunes entrepreneurs devront en être les premiers bénéficiaires. Pour une fois, au moins nos revendications ne seront pas faites dans le vide. Nous avons au moins un document juridique que nous pouvons opposer aux gouvernants et leur exiger que la situation des jeunes soit améliorée. Il a été reconnu que le chômage chez les jeunes est de plus de 80%. Là, c'est le Kenya. Et chez nous, c'est plus de 85%. C'est en cela qu'il a été reconnu déjà dans le préambule de ces documents qu'il fallait reconnaître que le chômage des jeunes est comparable donc à un volcan qui est endormi et qui, une fois mis en éruption, personne ne pourra résister. Les gouvernants savent que nous constituons une menace tant que nous ne serons pas encadrés. Il faut qu'ils trouvent des solutions pour que les jeunes trouvent du travail. Et s'ils trouvent du travail, ils vont contribuer à la reconstruction et au développement de nos pays.
Jean-Modeste Manenga, je rappelle que vous êtes coordonnateur du programme national pour l'emploi des jeunes Croyen en sigle. C'est une structure qui dépend du ministère du Travail. Vous étiez à Nairobi. D'abord, qu'est-ce qui a motivé la tenue de ces sommets? Et c'est maintenant que les États de la CIRGEL réalisent l'importance de l'emploi des jeunes?
Bon, merci d'abord de votre invitation.
Je pense que ce n'est pas maintenant que le chef d'État réalise l'importance de la lutte contre le chômage des jeunes. On sait qu'on sait la RDC, nous en avons pris conscience il y a longtemps, nous sommes en train d'y travailler. Mais comme vous le savez, les différents conflits que nous sommes en train de vivre dans la sous-région, ce sont les jeunes qui sont facilement manipulés par les hommes politiques, assoiffés de pouvoir, qui veulent à tout prix avoir le pouvoir derrière les armes, et ils manipulent les jeunes. La plupart de ces jeunes, ce sont ceux qui n'ont pas du travail. Dans le cadre de la recherche de solutions pour mettre fin aux différents conflits, les chefs d'État ont pensé également accentuer les actions de différentes nations dans l'insertion professionnelle des jeunes. Et c'est pourquoi, au mois de janvier 2014, ils se sont réunis en Angola et ils ont prévu cette rencontre à Nairobi pour que les différents techniciens essayent de réfléchir quelle politique avoir dans la sous-région pour l'insertion professionnelle des jeunes.
Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que c'est la situation de guerre qui a prévalu dans l'est de la RDC qui a constitué les déclics? Et que si la RDC n'avait jamais connu toutes ces différentes guerres, les États de la CIRGL n'auraient jamais pris conscience, n'est-ce pas, de l'importance de l'emploi des jeunes.
Bon, je pense que la personne qui a dit cela peut avoir raison comme il peut avoir tort. Il peut avoir raison dans le sens où, c'est comme je viens à peine de le dire, que la plupart de nos jeunes sont facilement manipulés et on les retrouve très nombreux dans des groupes ou des rébellions. Mais il ne peut pas avoir raison lorsque nous savons que, nous par exemple, lorsque nous avons, après le 1+4, le gouvernement de la RDC a lancé parmi ces 5 chantiers le chantier emploi, il n'y avait plus de guerre. Donc la crise de l'emploi des jeunes n'est pas que de la sous-région, c'est une crise mondiale. Et chaque nation, chaque continent, chaque sous-région dans le monde est en train de réfléchir, voir dans quelle mesure résoudre ce problème. En France, aux États-Unis et partout dans le monde, c'est une crise très dangereuse et c'est un fléau, comme on l'a dit. Si jamais le gouvernement essaie de mettre le moyen, cette crise est capable de renverser eux les différents pouvoirs. Vous connaissez l'histoire de la Tunisie, de différents pays maghrébiens. Donc là, il n'y avait pas de guerre. C'est une crise. Lorsqu'on n'a pas du travail, on vit dans la pauvreté. Lorsqu'on a un travail, on a son salaire, on sait satisfaire ses besoins primaires. L'insatisfaction de besoins primaires nous amène tout ce que nous avons comme antivaleur, mais également la manipulation de cette couche de la jeunesse qui est très forte pour développer le pays, mais elle doit développer le pays en étant dans le travail.
Alors, parmi les mécanismes prévus pour favoriser l'emploi des jeunes, il y a notamment l'octroi des crédits bancaires et l'assistance aux jeunes créateurs d'entreprises. Monsieur Maninga, la RDC est-elle disposée à permettre, n'est-ce pas, l'accès aux crédits bancaires à des taux raisonnables? On sait que ça, c'est vraiment un handicap.
Vous savez, depuis que le chef de l'État parlait du chantier emploi, nous sommes allés au Forum national sur l'emploi en 2007-2008. Il y a eu plusieurs programmes. En ce jour, dans ce pays, il y a un fonds que beaucoup ne savent pas, le Fonds national de microcrédit, que le chef de l'État a mis en place depuis 2011, qui n'a pour mission qu'appuyer les initiatives des jeunes Congolais pour la création de PME. Le siège est ici en ville, non loin de Kinmazière, là où était Sozir. Ce bâtiment, aujourd'hui, depuis 2011, s'appelle Fonds national de microcrédit.
Et quels sont les projets qui ont été soutenus, qui ont été financés par ces fonds depuis 2011?
Il y a eu beaucoup de projets que les jeunes ont déposés. Le programme pour l'emploi jeune, par exemple, l'année passée, il y a eu 3000 jeunes que nous avions formés en élaboration de projets à Fatima. Ils ont élaboré les projets, on les a formés dans la gestion de PME, gestion de microcrédit. Ils ont été orientés au FNM et tous leurs projets cadrent dans les 4 secteurs. Il y a d'autres projets par rapport à l'agriculture, d'autres projets par rapport aux services. La plupart, c'est le service et l'agriculture. Donc, il y a des jeunes qui vont, mais malheureusement, nous, dans notre pays, c'est difficile que les gens suivent l'information. Et l'information ne va pas aller à la maison. Ceux qui sont au courant, nous passons sur le champ de télévision, les mobilisations se font, mais c'est là qu'ils sont censés, disons, c'est là pour qui cette structure a été mise en place. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui ont l'information, mais ceux qui ont l'information fréquentent le FNM et sont en train d'être appuyés par le FNM.
Il y a aussi l'assistance parmi les résolutions, l'assistance aux inventeurs et créateurs d'entreprises. Cela fait aussi défaut dans notre pays où des talents ne sont pas valorisés, où des initiatives louables ne bénéficient nullement de l'appui des pouvoirs publics.
Vous savez, je ne suis pas là pour défendre les pouvoirs publics, mais quant à la question de l'emploi des jeunes, les efforts sont là. Les entreprises, lorsque je parle de PME, petites et moyennes entreprises, ces jeunes que nous regroupons à 10, 15, 20, avec un projet bancable, pour ouvrir par exemple une petite minoterie, pour par exemple ouvrir une polyclinique que nous avons appelé hier dispensaire, ceux qui ont fait la médecine, 2 médecins, 5, 6 infirmiers, des laborantins, avec un appui de 40, 30, 35 000, 40 000 dollars, ils ont leur petite polyclinique, ce que nous avions appelé hier dispensaire. D'autres jeunes dans la crèmerie, la charcuterie, la pâtisserie, les jeunes sont en train de trouver des appuis, mais ce qu'il faut dire, il faut au moins que l'État puisse augmenter l'enveloppe budgétaire allouée à cette problématique de microcrédit des jeunes, puisque l'enveloppe qui est allouée, bien sûr, par rapport aux difficultés financières de l'État, mais cette enveloppe ne répond pas aux besoins de l'immensité des jeunes qui attendent de tels appuis.
Merci Martin Mokonkole, secrétaire général du Fonds des démocrates congolais pour le développement. C'est un parti de l'opposition. Quelle lecture vous faites des résolutions issues de ces sommets de Nairobi sur l'emploi des jeunes?
Je tiens d'abord à vous remercier, messieurs les journalistes, pour l'opportunité que vous nous donnez. C'est un sujet très intéressant et qui doit en principe nous amener à une réflexion qui pourra nous mettre tous d'accord sur la vision que nous avons pour le développement de notre pays. Et je suis en train de me demander, quand vous avez accordé la parole à monsieur le coordonnateur Manenga, lui qui a assisté, moi j'ai pensé qu'il allait nous expliquer, en tant que représentant de notre pays, en allant de là, quels étaient les cahiers des charges qu'ils avaient amenés en rapport avec notre jeunesse. Et ces cahiers des charges ont été élaborés par quelle structure et quel était aussi le contenu de ces cahiers des charges par rapport à l'étendue nationale, parce que la jeunesse, je crois qu'il y a eu des gens qui ont été représentés. Ces gens-là se sont retrouvés jeunes dans quel cadre, dans quelle coordination, dans quelle structure. Ce sont des choses fondamentales et utiles. Moi, je crois que l'initiative, elle est très bonne de pouvoir quand même se mettre d'accord pour voir comment on peut arriver à collaborer avec des pays voisins en ce qui concerne l'avenir de notre pays au niveau de la formation. Mais nous nous posons une première question. Est-ce que l'État congolais a réfléchi d'abord sur la formation de cette jeunesse en ce qui concerne l'aspect professionnel? Il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de problèmes que vous allez au niveau de l'enseignement supérieur. Et là, on forme des cadres, des concepteurs. Et quand vous allez au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, je crois, vous verrez qu'il y a plusieurs arrêtés qui sont attribués à des différents responsables des écoles, mais il n'y a plus cette formation professionnelle. Et j'ai entendu M. Manenga parler qu'il y a des PME, et ces PME doivent en principe être détenus par des gens qui ont été formés dans les domaines. Est-ce que nous avons des écoles professionnelles qui forment ceux qui doivent être des boulangers, ceux qui doivent détenir des imprimeries, ceux qui doivent détenir des pâtisseries ou des charcuteries? Ce sont des problèmes, des difficultés que nous avons. Il faut reconnaître qu'à ce niveau, l'État congolais n'a pas une politique de l'emploi et de l'encadrement de la jeunesse. Et nous nous disons, ils sont partis, je crois, ils n'avaient pas un cahier des charges en rapport avec la crise que nous avons. Et vous avez suivi, un des intervenants nous a dit que la jeunesse constitue dans notre pays plus de 85% qui sont dans les de la jeunesse. Et cette jeunesse est en chômage. Et je me dis, nous sommes en train de préparer une bombe pour la République. Nous sommes en train de préparer une tombe pour la République. Avec ça, comment nous allons développer notre pays? Si au niveau de la politique, de l'emploi d'une façon générale, il y a des difficultés. Je ne connais pas jusque-là une loi qui institue réellement la politique d'emploi dans notre pays. Et avec ces difficultés, nous nous disons, on va évoluer comment? On est en train de vaguer de quelle manière? M. Manenga parlait de l'ancienne politique qui était parmi les 5 chantiers avec l'emploi. Je me suis demandé s'il y a une loi qui avait réellement réglementé le secteur d'emploi avec toutes les conditions pour permettre le décollage dans notre pays. Ce sont là les difficultés que nous avons. Nous estimons qu'il appartient à notre gouvernement de pouvoir se remettre en cause et de réfléchir, parce que on a toujours dit que la jeunesse est l'avenir de demain. Mais cet avenir de demain qui n'est pas formé, cet avenir de demain qui n'est pas pris en charge, cet avenir de demain qui n'est pas dans une planification des activités, ni au niveau de la formation, ni au niveau de la prise en compte de ces jeunes-là, je crois que nous sommes un État en plusieurs difficultés qui nécessitent qu'on puisse s'arrêter et regarder pour recadrer notre politique d'emploi pour faciliter le développement.
Martin Kokolé, il y a environ 40 résolutions prises par les jeunes à Goma du 20 au 21 juillet dernier et adoptées par les chefs d'État et de gouvernement à Nairobi, parmi lesquelles créer un environnement favorable aux investissements et au développement socio-économique. Alors, lorsque vous lisez différents rapports sur la gouvernance en Afrique subsaharienne, vous vous rendez compte que ce qui fait défaut, c'est l'environnement des affaires et des développements socio-économiques. Y a-t-il des facteurs qui peuvent expliquer cela?
Mais, messieurs les journalistes, il y a d'abord un problème. Cette politique ne peut être d'application que si et seulement si chaque pays membre qui est allé assister à ces sommets a au moins une politique propre d'emploi dans son propre pays. Vous allez vous associer aux autres. Je ne vais pas parler de ces autres pays, je préfère parler de mon pays à moi. Aujourd'hui, M. Guimaté, les PME, je prends un exemple pour la ville capitale de Kinshasa ici. Mais nous avons beaucoup de jeunes que nous retrouvons aujourd'hui dans ce qu'on peut appeler cabine publique, dans ce qu'on peut appeler des cambistes. Est-ce que ces PME sont encouragés? Est-ce qu'on arrive même à leur donner des papiers pour que ces messieurs-là fonctionnent pour faciliter réellement à l'État la mobilisation des recettes? On a plus privilégié l'informel, et cet informel, c'est par rapport à l'échec de l'État, par rapport à la mauvaise politique que nous avons pour l'encadrement. Ce sont là des petits problèmes qui doivent en principe être appréciés profondément pour trouver des solutions.
Martin Kokolé, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient des Bikenge au Maniema.
Odatse Rugendabanga Molikuza depuis Bikenge, Maniema, ville de Kindu. Cette conférence économique est la belle des plus belles conférences déjà faites au Congo, car elle touche la base de vie de la population. Mais qui fera de cette théorie une réalité, une réelle pratique? À quand et comment? Par qui et à qui?
Martin Kokolé.
Je crois que notre ami de Bikenga nous a donné raison. Nous avions posé la question, est-ce qu'il y a eu un cahier des charges qui concerne réellement la jeunesse à ce niveau-là? Ce cahier a été élaboré par qui? Est-ce que les jeunes de toute la République ont été pris en compte? Si on pose la question aujourd'hui aux jeunes de Vikoro, on pose la question aujourd'hui aux jeunes, même sur place à Kinshasa ici, je ne sais pas quand est-ce qu'ils sont réunis. Et je ne vais pas parler de chez moi à Kabinda. Quand est-ce qu'on les a consultés? Je ne sais pas parler de Luozi. Quand est-ce qu'on les a consultés? Je crois que nous en avons assez avec des discours et nous en avons assez avec des recommandations et recommandations qui n'ont jamais été prises en compte. Il y a un problème. Le problème, c'est la volonté politique et l'amour de ces pays.
Polydor Sangeli, vous êtes expert et psychologue du travail. Comment vous analysez cette initiative des États de la CIRGEL?
Vous savez, toute initiative qui est caractérisée par une certaine bonne intention est à encourager. Il faudra encourager et puis avoir une certaine réserve quant à sa diabolisation. Mais cependant, cette attitude d'éviter la diabolisation ne peut pas nous priver d'émettre certains avis critiques qui en plaisent à certaines personnes, comme l'a fait l'honorable Mokonkole. Au fait, comment analyser ces problèmes? Moi, je me dis... Il faut, je vais l'aborder dans une approche systémique, puisque là, je vais inviter nos auditeurs à faire une analyse des inputs pour voir la qualité du output qui est aujourd'hui les 40 recommandations. Effectivement, l'honorable a essayé d'en parler. Et là, nous sentons un problème de préparation. Un problème de préparation, un problème de la pertinence même de cette conférence. Fallait-il avoir... C'est une bonne initiative, mais est-ce qu'elle arrive, on l'organise au bon moment? Il y a un problème de la qualité du contenu du cahier des charges, comme l'a dit l'honorable, mais il y a au-delà de ça, la qualité des intervenants. Au jour d'aujourd'hui, la problématique d'emploi est une problématique multisectorielle. Et on ne peut pas partir d'une initiative du forum des jeunes qui s'est tenu à Goma, calqué sur le modèle, sur la réalité de la guerre, Surtout qu'on a avoué dans ces plateaux que il n'y a pas que la guerre qui est la raison, et initier cette conférence. Lorsque je parle de l'aspect multisectoriel, je me pose la question ici de savoir si déjà les différents intervenants dans notre politique d'emploi ont été associés pour rendre solide notre politique d'emploi, notamment le ministère des Finances, puisqu'aujourd'hui, la recommandation aura comme conséquence de doter, de disponibiliser un fonds, d'augmenter les budgets pour financer les activités des jeunes. Le ministère des Finances, le ministère de budget, le ministère de portefeuille, le ministère délaissé, puisqu'au fait, les problèmes d'emploi est multisectoriel, mais si nous posons un diagnostic en réalité, la République démocratique du Congo est allée en oiseau isolé. En oiseau isolé, c'est quelques experts du ministère du Travail et quelques membres du ministère du Forum national des jeunes qui ont pris part active dans cette conférence-là. Alors, au-delà de ça, lorsque je vois la préparation, les inputs n'ont pas été de bonne qualité. Ce qui fait que la recommandation tombe un peu comme du chevet dans la soupe. De quelle manière? Au jour d'aujourd'hui, nous avons cette recommandation, mais c'est alors que nous nous posons la question de sa faisabilité. Comment nous allons la rendre réelle? Et la question de notre ami qui a dit « c'est une des plus belles initiatives, mais on se pose la question de savoir comment ça va se faire ». Comment ça va se matérialiser?
Et donc, vous voulez dire que les réflexions ont été menées sans tenir compte des réalités?
Elles ont été menées à la va-vite. C'est vrai. Nous avons aujourd'hui... je rejoins ici l'honorable Mukonkole lorsqu'il parle d'une consolidation à l'interne. Monsieur Modeste a évoqué ici la tenue du Forum national de l'emploi depuis 2008 ou 2007, je crois. Mais dites-nous, quelles sont les avancées que nous avons enregistrées par rapport à ces forums? Rien du tout. Et là, nous augmentons une recommandation sur le plan régional qui aura du mal à trouver un cadre favorable pour sa faisabilité.
Alors vous exprimez plusieurs préoccupations. Vous pensez que les États africains se préoccupent-ils, n'est-ce pas, de la problématique de l'emploi des jeunes?
C'est vrai, ces États se préoccupent de la problématique des emplois des jeunes, mais j'aurais bien voulu que la République démocratique du Congo consolide d'abord sa politique en impliquant une approche interinstitutionnelle. Puisqu'aujourd'hui, nous avons des diplômes qui sont produits, vaille que, il n'y a pas un mapping des besoins en emploi qui est actualisé au jour le jour, et ça fait que nous sommes en face d'une situation complexe qui n'est pas encore cernée par les différents décideurs.
Alors, sur les 12 États de la CIRGEL, il n'y a que deux qui étaient représentés par leur président. Et pourquoi la plupart se sont absentés à votre avis? Vous pensez que si c'était une question sur la sécurité, il n'y aurait pas d'engouement?
C'est vrai que nous ne connaissons pas l'agenda de différents chefs d'État. Ce sont des personnes qui sont très occupées. Mais dites-moi, s'il s'agissait d'une résolution, d'une conférence qui portait sur des questions amplement sécuritaires, vous verriez que tous devaient être là. Donc ça montre déjà l'intérêt qu'ils portent vis-à-vis de la problématique de l'emploi. Et c'est inquiétant déjà comme un indice par rapport à l'importance qu'on accorde à la réunion.
Monsieur Maninga, plusieurs préoccupations ont été soulevées ici. Quand vous êtes allé à Nairobi, est-ce que vous êtes amené avec un cahier des charges? Est-ce que l'État insiste sur la formation professionnelle? Voilà, il y a beaucoup de questions qui ont été posées ici, si vous pouvez réagir.
Merci, monsieur. Je voudrais d'abord apaiser les amis qui sont au plateau. Nous sommes allés à Goma, d'abord dans ce pays, la RDC, s'il y a des experts dans l'administration de l'État en matière de l'emploi, c'est au sein du ministère de l'Emploi. C'est pas dans un autre ministère. L'emploi, c'est une matière transversale. Nous sommes allés à Nairobi pas pour aller identifier les actions qui directement vont donner de l'emploi, un état de lieu, pour se poser des questions. Qu'est-ce qui fait que on n'avance pas à grande vitesse dans la création des emplois pour jeunes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons réfléchi, les différents experts des 12 pays membres de la CIEGEL, le ministère du Travail de tous ces pays, de la jeunesse et même les jeunes également, des affaires étrangères. Nous avons réfléchi et dans les résolutions, vous verrez la 39e recommandation dit quoi? Le chef d'État exige le secrétariat technique de la CIEGEL urgemment de se réunir avec l'appui des États membres pour élaborer un plan d'action concrète. Des actions concrètes que les États doivent mener pour l'ensemble de la CIEGEL, mais également des actions que chaque État peut accentuer par rapport à l'existant au sein de leurs États. Les cahiers des charges, oui. Vous savez, nous, dans notre pays, nous avons identifié...
Un cahier des charges qui émane de différents intervenants dans les secteurs de l'emploi.
Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Dans notre pays, le ministère de l'Emploi, sous la direction de son Excellence, M. le ministre Bahati Lukwebo, nous avons élaboré en 2013 les états de lieu, juste pour identifier les secteurs porteurs d'emploi et dans chaque secteur, quelles actions les différents ministres doivent mener pour que les emplois puissent être créés. Nous avons le secteur de l'agriculture, sous ces trois volets. La production agricole à grande échelle. Le deuxième volet, la transformation de ces produits agricoles, qui va nous amener une panoplie de PME à travers la nation et qui va engager un grand nombre de jeunes dans le travail, créer la classe moyenne, mais également inonder le pays dans des produits de consommation par rapport à la population. Le troisième volet, la commercialisation de ces produits. Nous avons également le deuxième secteur des services. Le troisième secteur, les infrastructures. Le quatrième, mines et hydrocarbures. En dehors de ces quatre secteurs, nous avons aussi l'administration publique qu'il faut réformer. Voilà un peu dans les cahiers de charges par rapport à la réalité congolaise qui reste la réalité de la sous-région, puisque nous avons entendu tout le pays se focaliser sur le même secteur. Puisqu'en dehors de ce secteur, il n'y en a pas d'autres. Vous allez me permettre de répondre un peu par rapport... il y a une question sur les chefs d'État, ainsi de suite. Il y a eu bien sûr des chefs d'État, trois vice-présidents de la République, trois premiers ministres, deux vice-premiers ministres et une vingtaine de ministres de tout ce pays. Il n'est pas question que tout le chef d'État soit là. C'est comme l'a dit notre ami, chacun a son agenda, qui tombe peut-être, on fixe la date, mais il a une autre réalité dans son pays et il se fait représenter par son premier ministre. Notre cas, c'est le vice-premier ministre au budget. J'ai entendu mon ami se soucier un peu par rapport à la budgétisation. Nous avons dû merci au chef de l'État pour avoir envoyé le vice-premier ministre au budget, puisque c'est lui qui a la liberté d'affectation de fonds à travers les différents ministères, pour qu'ensemble, en étant en Nairobi, qu'ils puissent prendre encore connaissance du danger qui guette la sous-région, de la préoccupation des jeunes, mais également de l'enveloppe budgétaire qu'il faut allouer aux différentes structures qui sont habilitées à poser des actions pour que les emplois puissent être créés.
Monsieur Maninga, nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Lubumbashi au Katanga.
C'est Maître Machaka à partir de Lubumbashi. Pour l'encadrement de la jeunesse, je crois que notre gouvernement devrait d'abord commencer par avoir une banque de données. Est-ce que notre gouvernement a une banque de données pour savoir le nombre de jeunes qui sont dans le chômage et selon leur domaine? Quand notre gouvernement ne possède pas une banque de données viable, c'est difficile d'encadrer cette jeunesse.
Oui, avez-vous toutes ces statistiques? Y a-t-il combien de jeunes en chômage? Combien ont été jusque-là recrutés?
Merci pour la question de notre ami. Vous savez que tout se planifie. Les statistiques sont très utiles dans la gestion d'une nation. Je vais vous rappeler une chose. Vous savez que depuis plus ou moins 1988, qu'on n'a jamais eu de recensement dans ce pays. Pas de politique nationale de l'emploi dans ce pays depuis son accession à l'indépendance. Vous avez, sur toutes les pistes en matière de statistiques, le pays en souffre. Pourquoi ? Par manque d'une planification depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, il y a une volonté qui est en train d'être conjuguée. Les statistiques, je ne vais pas me mettre comme tous ceux-là qui donnent des statistiques. Les statistiques, ce ne sont que des estimations. Le vrai statistique, nous ne pouvons les avoir que lorsqu'il y aura le premier recensement. Mais nous avons une idée sur les taux, le nombre de jeunes qui peuvent être en chômage par rapport aux estimations. Mais le vrai statistique fiable, ce n'est pas à ces gouvernements, s'il faut que je puisse répondre, puisque nous avons tous oublié dans ces pays aucune politique nationale de l'emploi, aucun recensement depuis les années 89, 88, 89, des guerres en guerre où on ne pouvait rien faire comme recensement. Merci. Et en ces jours, nous attendons ces recensements pour que nous puissions avoir des statistiques fiables sur toutes les variables, y compris le chômage des jeunes.
Merci Martin Mokonkole. Votre réaction par rapport aux réponses qui ont été apportées par M. Maninga?
Vraiment, je ne vais pas répondre à M. Maninga parce qu'il représente le ministère qui est membre du gouvernement de notre pays, et je constate, et ça me donne encore une fois raison de pouvoir rester constant dans ma logique pour dire, partant de ses déclarations, il dit depuis 1960, il n'y a pas de politique d'emploi dans notre pays. C'est un représentant des ministres qui parle. Allez-y comprendre, et notre peuple doit comprendre que nous avons des gens qui ne pensent pas à tenir compte de la relève, à tenir compte de la jeunesse, parce que vous n'avez pas une politique d'emploi. Maintenant, vous faites quoi? Et vous voulez quoi? Et vous voulez quel développement? Et vous voulez quelle survie de ces gens-là? C'est très grave. Et j'ai beaucoup apprécié la question qui vient de notre ami de Lubumbashi. Est-ce qu'il y a une banque de données? Monsieur Maninga, il est allé nous représenter à l'extérieur du pays, avec les autres ministres qui l'ont accompagné. Avec quelles données? Avec quelles statistiques? Avec quelles politiques? Ils sont allés en promenade. Et je crois que ça, nous devons tenir compte que c'est du gaspillage. Même si le vice-premier ministre en charge du BD était là, mais il va se rendre compte de quoi, pour qu'il affecte quoi? Parce qu'il n'y a pas une politique d'emploi, parce qu'il n'y a pas une budgétisation. On est même incapable. M. Maninga dit que c'est depuis 1988, on n'a même pas de statistiques parce qu'on n'a jamais fait de recensement. Mais nous pouvons passer à des différents ministères de l'enseignement supérieur et universitaire. On peut savoir combien d'écoles ont été agréées. On peut avoir des palmarès pour savoir combien de jeunes nous lâchons chaque année. On est là que pour signer des arrêtés d'agrément des écoles. On peut passer au niveau du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. On saura combien d'écoles on a agréées. On peut se poser la question, il y a combien d'écoles qui ont été agréées à caractère professionnel? Et combien, quel est le plan d'aménagement que nous avons à ce sujet pour savoir nous formons quels jeunes pour quel avenir? Et ça, ce sont des problèmes de fond. On ne peut pas se voiler la face. Je crois qu'il y a un problème d'irresponsabilité de ceux qui sont aux commandes à ce jour parce qu'ils ne savent pas orienter des choses. Parce qu'on pouvait facilement avoir des données, on pouvait facilement avoir des statistiques pour dire de cette conférence qui s'était passée à Goma. Est-ce qu'on a interrogé toutes les différentes provinces? Est-ce qu'on a interrogé toutes les différentes couches de la jeunesse professionnelle? Est-ce qu'on a tenu compte de toutes ces personnes-là? Parce que parmi les recommandations, ils ont plus insisté sur l'octroi des crédits. On va octroyer des crédits à quel secteur? Est-ce qu'on les a identifiés? On doit encourager les inventaires. Est-ce qu'on les a réellement identifiés? Qui sont ces jeunes? Comment ils ont-ils été encadrés? Il y a un problème au niveau de l'agrément des écoles.
Alors, je peux vous donner un exemple. Pour un pays qui a connu beaucoup de problèmes, il n'est pas compréhensible qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, des statistiques fiables. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que nous faisons face à un phénomène dans ces pays, depuis que nous connaissons des guerres, où les jeunes sont adhèrent, n'est-ce pas, aux mouvements, aux groupes armés, et parce qu'ils sont oisifs. Alors, à partir du moment où les États de la région prennent l'initiative de réfléchir sur comment orienter ces jeunes afin qu'ils ne soient plus tentés d'adhérer aux groupes armés. Pourquoi n'est pas, nous, RDC, parce que nous sommes les premiers à être concernés, pourquoi n'est pas aller participer à cette rencontre-là?
Nous n'avons jamais dit que notre participation était mauvaise. Nous avions soutenu et nous avions dit que c'était une très bonne chose. Mais nous sommes allés participer avec quel cahier des charges? Avec quelles données? Qu'est-ce qui était dans notre enveloppe de participation? C'est là où il y a le problème. Si c'est une promenade de santé, nous disons que c'est, ça ne vaut pas de la peine. Et nous disons, aujourd'hui, il y a un problème, monsieur Guimaté, au niveau des humanités. Prenons un élève qui est arrivé jusqu'au niveau des cinquièmes des humanités, qui quitte, qui ne veut pas continuer. Et quelle est la politique au niveau de notre pays pour l'orienter et pour le prendre en charge? Parce qu'il n'y a plus des écoles professionnelles.
Honorable Martin Konkole, au-delà de tout cela, les résolutions et recommandations ici de ces forums pourraient-elles, n'est-ce pas, promouvoir l'emploi des jeunes en RDC?
Vous n'avez qu'à voir l'intérêt que les différents chefs de l'État ont pu accorder à la clôture. Et moi, je vous dis que ce sont des recommandations qui seront jetées réellement dans les tiroirs, quand bien même le contenu peut être bon. Et ça sera difficile qu'on arrive à les mettre en application parce qu'à notre niveau, nous n'avons pas une véritable politique d'emploi et un certain soutien de l'accompagnement de la jeunesse pour réellement l'orienter dans les différentes professions qui pourraient être utiles pour la société.
Monsieur Polidor Rostangeli, nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Arou, en province orientale.
Alphonse Boudil Gélé depuis Imbokolo en territoire d'Aru district de l'Ituri. Le sommet de Nairobi est attalé si seulement si cela profiterait réellement à toute la jeunesse en général puisque les invasions et l'emploi des jeunes sont un droit et non une faveur. Ce sera en même temps sauver l'avenir de nos nations. Le gouvernement congolais devra alors privilégier et encourager les filières de formation professionnelle et technique qui sont pourtant négligées mais également il faudra mettre des formateurs qu'il faut à la place qu'il faut au lieu de partir politiser, ethniser, régionaliser l'emploi et j'en passe, sinon ce sommet restera budgétivore et n'aura aucun impact sur le terrain ou ne se limitera que dans les grandes villes du pays des Grands Lacs.
Monsieur Tamili?
Oui, au fait, il vient là de suggérer de bonnes choses, hein, de bonnes choses. Et lorsque je disais que la recommandation, lorsqu'il faut analyser sa pertinence, il y a beaucoup de questions à se poser. Puisque là, nous constatons, d'abord quand on parle de chômeurs, on voit à la fois les personnes qui, puisque en matière d'emploi, il y a des demandeurs d'emploi, des personnes qui veulent demander de l'emploi, qui sont disposées à être employées, et des personnes qui sont disposées à créer des emplois. Et l'appui dont on parle ici ne concerne qu'une fourchette. Et si nous regardons la mentalité du Congolais. Le Congolais a été préparé à la bureaucratie. Donc l'entrepreneuriat ne fait l'objet d'une motivation que d'un nombre réduit de jeunes. Alors quelles sont les recommandations qui concernent tous ces jeunes-là qui sont demandeurs d'emploi, qui ont des diplômes universitaires, mais qui ne savent pas occuper un poste quelconque? C'est vrai qu'il faut prendre en ligne de compte les différentes recommandations, mais je pense ici, pour réussir la lutte qui vise la réduction du taux de chômage, je crois en premier lieu, il faut d'abord repenser les mentalités en matière du travail. Il y a un grand nombre de jeunes qui pensent que l'emploi ne consiste qu'à occuper un poste, à être salarié. Il faut promouvoir l'entrepreneuriat et si effectivement les fonds sont disponibles et que leurs hauteurs budgétaires peuvent être élevés, ça sera une réussite. Mais non seulement il faut repenser les mentalités en matière du travail, mais aussi intensifier la synergie interinstitutionnelle. C'est ça notre grande faiblesse. On a évoqué ici la présence du ministre de budget, mais c'est une représentation protocolaire. Quelle implication le ministère de budget a eu par rapport? D'abord, la politique d'emploi n'a même pas de moyens de... Les recommandations du Forum national d'emploi n'a pas de moyens financiers. Lisez dans les différentes rubriques budgétaires. Vous verrez ce qui est réservé à l'emploi. Vous allez vous poser beaucoup de questions. C'était une représentation essentiellement protocolaire.
Donc il faut augmenter les budgets.
Augmenter les budgets. Il y a des structures qui existent. Pour éviter beaucoup de négativisme, reconnaissons ici que le gouvernement a des structures. Puisque pour faire avancer quelque chose, il faut des structures. Les structures telles que Proyen sont des structures à encourager.
Est-ce qu'elles ont
des structures, j'en arrive, monsieur.
Les moyens de leur politique.
Voilà, des structures comme le Forum national d'emploi ont les raisons d'être, mais faut-il encore les rendre beaucoup plus efficaces et efficients? C'est là la maladie du Congolais. La maladie du Congolais, on les crée, ça devient des coquilles vides qui vont commencer à produire des textes qui ne seront jamais exécutés. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas appropriation au niveau des différents intervenants. Il n'y a pas appropriation. Par exemple, prenez le cas du ministère de l'ESU. L'ESU aujourd'hui produit beaucoup de diplômés.
Enseignement supérieur et universitaire.
Oui, à l'enseignement supérieur. Mais on les produit pour quoi faire? Mais est-ce que nous créons des filières par rapport aux besoins en emploi? Il n'y a pas tout ça. Le ministère des Finances, il doit savoir, par exemple, s'il faut engager au niveau de l'administration publique. Il doit disponibiliser une enveloppe salariale. Tout ça, ça n'existe pas. On fait du méli-mélo et c'est comme si on versait de l'huile dans l'eau et c'est du superficiel. On a des recommandations qui sont flottantes et qui deviennent des lettres mortes. Pourquoi? Puisque en amont, les inputs n'ont pas été des inputs de qualité.
C'est un problème global.
C'est un problème global. D'où j'en appelle ici pour rejoindre notre ami qui appelait à partir de Bounia à une sorte d'état généraux en matière d'emploi. Comme on l'a fait et on l'a appelé Forum national de l'emploi. Pour qu'on repense même les différentes recommandations en essayant de les actualiser par rapport aux évidences du moment.
Oui, nous sommes presque à la fin de l'émission. Est-ce que vous pouvez conclure?
Je conclue en disant qu'aujourd'hui, la problématique de l'emploi n'est pas seulement un problème de gouvernants, mais il y a aussi un problème individuel. Pour que nous puissions arriver à la réduction du taux de chômage, d'abord, les Congolais lui-même doit repenser sa conception du travail. Est-ce que travailler veut dire être employé, être salarié, ou travailler veut dire regarder les besoins que me dicte mon milieu et voir de quelle manière je peux créer un rapprochement entre le travail potentiel et le travail réel. Puisque le travail potentiel, mon cher ami, au Congo, il y en a. Le Congo a plusieurs opportunités d'emploi.
Merci.
Mais cependant, la mentalité d'emploi chez les Congolais est autre. Les Congolais veulent le luxe. Les Congolais veulent avoir un grand salaire.
Merci, Tamili.
Merci beaucoup.
Monsieur Modeste Manenga, les résolutions et recommandations ici de ces forums, vous pensez qu'elles peuvent promouvoir l'emploi des jeunes? Ça sera sous votre conclusion.
Vous savez, les 40 recommandations, sur les 40, c'est la plupart des choses que nous sommes en train de faire dans notre pays. L'honorable a parlé sur la question de la formation professionnelle. Les efforts du gouvernement quant à ce qui concerne l'INPP, tout le monde est en train de voir. Par rapport aux statistiques, l'honorable a raison. Lorsqu'il dit qu'on peut avoir les statistiques par rapport aux licenciés gradués, mais lorsqu'on parle des statistiques de chômeurs, il n'y a pas que la variable licencié gradué. Il y a aussi la variable de ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'être, disons, d'étudier, mais qui en ce jour ont 30 ans, 27 ans. Ils sont chez chômeurs. Comment les déceler? Donc, il faut un recensement pour les identifier tous.
Voilà, quand vous fournissez des efforts pour créer de l'emploi. Est-ce que vous vous préoccupez aussi des conditions de travail de ces jeunes-là? Il y a aussi des jeunes aujourd'hui qui travaillent, mais qui sont chosifiés, qui sont...
Les conditions du travail, mon frère, j'étais en train de dire, les conditions du travail, la sécurisation de ces jeunes qui travaillent, mon frère, je crois que vous suivez les informations, le ministre Bahati Lukwebo, ça fait un mois, il a interdit la visite des inspecteurs du travail dans toutes les organisations. Il y a un recrutement de 1000 jeunes, nouveaux inspecteurs. Depuis plus de 25 ans, on n'avait que 100 inspecteurs du travail.
Merci. Malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission. Martin Mkonkole, votre conclusion?
Monsieur le journaliste, je crois qu'il est tout à fait normal pour un État qui veut réellement la promotion de la jeunesse doit commencer par avoir des textes qui sont réellement acceptés, respectables à son sein. Et cet État doit favoriser réellement les créateurs d'emplois en donnant des conditions de viabilité pour que cette création se fasse. Et aussi, l'État doit réellement être responsable pour gérer la jeunesse parce que c'est cette jeunesse qui est réellement la relève de demain.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Claude Moussiala qui était à la technique. Merci à Alain Irung, à Kéline Kouté et Samuel Kachak qui m'ont aidé à préparer cette émission sous la supervision des Pelé Kipela Mondo, devant les micros Guy Maté. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Capitole.